Pour ce sujet sur la langue chinoise, j'ai retenu un livre qui s'appelle « L'Empire du milieu, le climat, le sol, les races, les richesses » par les deux frères qui viennent de mentionner et qui est paru en 1902. Il y a un chapitre 8, fait 12 pages, sur la langue chinoise. C'est le premier livre que j'ai acheté chez un bouquiniste de la rue Cuvier quand j'ai commencé à apprendre le chinois. Ce livre m'avait beaucoup plu parce qu'il y avait des images, c'est comme ce qui est ici, c'était très très beau, mais la description qu'il donnait de la langue chinoise aurait dû me faire renoncer à étudier cette langue. J'ai continué malgré lui, et parfois je ne regrette pas trop. Ce livre qui s'appelle « Le climat, le sol, enfin l'empire du milieu » est une reprise du volume 7 de la nouvelle géographie universelle, celui sur l'Asie orientale. Alors j'ai comparé, je suis venu il y a 15 jours à peu près, comparer cet ouvrage, et je me suis aperçu qu'il y avait très peu de différence entre le texte de l'Empire du Milieu et puis et ceci. Et pourtant, il y a 20 ans de différence. Ce volume-là est de 1882, alors que l'autre est de 1902. En plus, dans l'Empire du Milieu, il met des propos de différents personnages qui parlent de la langue chinoise que je ne connaissais pas. Mais bon, c'est intéressant. Et surtout, il y a un chapitre qui s'appelle « La lente transformation du chinois ». Alors là, qui est beaucoup plus intéressant. Bien. J'ai aussi regardé ce qu'avait écrit en 1882 Le Globe à vol d'oiseau, où il y a une demi-page sur le chinois, mais qui est particulièrement succulent. Alors vous savez que les frères Reclus étaient tous deux des géographes, mais ce ne sont pas des spécialistes de la langue chinoise, bien sûr. Ce ne sont pas non plus des grammairiens. Mais c'est quand même des précurseurs de la géolinguistique, de la linguistique des langues. Ils ont compris très tôt qu'une langue, c'est dynamique, qu'elle connaît des variations dans le temps, dans l'espace géographique qu'occupent ses locuteurs, dans sa fonction politique, dans sa place dans les relations sociales. C'est vivant. Alors, ce qui m'a particulièrement intéressé dans leur écrit, c'est le reflet qu'on y trouve d'un courant de pensée prévalant à cette époque, c'est-à-dire le rôle que peut jouer une langue pour améliorer les communications entre les humains, la langue comme un facteur de progrès ou au contraire de stagnation. Mais la langue est aussi un instrument de pouvoir. Pour mieux comprendre leur position concernant la langue chinoise, nous avons recherché les fondements de leur pensée dans leurs écrits. Alors cet exposé aura trois parties. La première partie s'appellera « La langue chinoise et les savants de l'Occident » du XVIe siècle au XXe siècle. Nous verrons que les siècles s'écoulant, la langue chinoise a été perçue d'abord comme une langue très parfaite, puis considérée comme inorganique et sans grammaire. Puis nous examinerons les deux textes en détail, les deux textes des frères Reclus. Nous corrigerons certaines idées fausses et apporterons des informations que la linguistique actuelle est capable de nous fournir. Parce que si je vous dis il a tort, il faudrait quand même prouver pourquoi il a tort, ou bien il a raison, pourquoi il a raison. Enfin, nous essaierons de comprendre le pourquoi de l'introduction-conclusion, parce qu'il commence son texte par la conclusion, une conclusion sans appel, et j'ai essayé de comprendre pourquoi il n'avait pas compris grand-chose à la langue chinoise, à sa nature, et à son possible rôle international. J'espère que parmi vous, il y a des spécialistes des frères Reclus qui vont m'éclairer un peu plus là-dessus. Je commence avec la première phrase de mon texte. Voilà ce qu'ils disent. C'est très intéressant. « Quoique policés depuis tant de siècles, bien avant l'époque où les Occidentaux commencèrent à émerger de la barbarie, les Chinois se distinguent parmi tous les peuples civilisés par la forme encore rudimentaire de leur langage. Ils sont restés à cet égard dans une période de développement qui, chez les Aryens et les Sémites, appartient à la période préhistorique. » Alors je me suis dit, d'où vient cette pensée? Donc j'étais voir un peu ce que les savants de l'Occident disent depuis le premier écrit sur la langue chinoise. Est-ce que ça vient de ça ou bien d'ailleurs? Donc j'ai été voir, et au XVIe siècle, l'Europe découvre la Chine grâce au livre d'un dominicain portugais qui s'appelle Gaspar da Cruz. En 1569, il écrit un texte là-dessus, et puis un autre plus célèbre qui s'appelle González Mendoza, qui a écrit « Histoire du grand royaume de la Chine », publié en français en 1588. Ce livre a été le best-seller en Europe à cette époque. Ça formait toute la pensée des gens sur ce qu'était la Chine. Montaigne, qui l'a lu, dit quelque chose de très intéressant. « En la Chine, duquel royaume la police et les arts, sans commerce et connaissance des nôtres, surpassent nos exemples en plusieurs parties d'excellence, et duquel l'histoire m'apprend combien le monde est plus ample et plus divers que ni les anciens ni nous ne pénétrons. » Donc on sent déjà une admiration pour la Chine et une curiosité très importante. Au XVIIe siècle, ce sont les missionnaires qui sont installés en Chine qui vont nous fournir toutes les informations que nous attendons sur tout un tas de sujets. Leur texte sera publié, ce sont des lettres, dans une collection qui fait 34 volumes, c'est beaucoup, publiée entre 1702 et 1772, et qui s'appelle « Les lettres édifiantes et curieuses ». On y puise, pour alimenter une discussion sur un sujet qui passionne l'Europe à cette époque-là, c'est la recherche de la langue parfaite. On est convaincu à cette époque qu'il y a une langue originaire. C'était la langue que parlait Adam pour s'adresser directement avec Dieu. Donc c'est une langue obligatoirement parfaite, puisqu'il ne devait pas y avoir d'ambiguïté. Et on s'est demandé, mais quelle est la langue qui pouvait être la candidate encore, avant encore des parcelles de cette langue qui permettait au couple Adam et Ève de communiquer avec Dieu. Alors, bien sûr, il y avait l'hébreu, il y avait les hiéroglyphes égyptiens, et puis la Chine leur a paru comme une possibilité, parce que c'était tellement étrange, et puis il y avait des louanges tellement sur cette langue, qu'on s'est dit que c'est peut-être possible. Donc cette langue, on a beaucoup travaillé là-dessus. Je reprends le texte de Gaspar da Cruz, le premier qui a écrit sur la langue chinoise, et vous comprendrez pourquoi ça nous a passionnés. Il dit ceci. « Les Chinois n'ont pas de lettres précises dans leur écriture, car quand ils écrivent, c'est en caractère. » Alors quand il dit « lettres », ce sont ABCD, c'est-à-dire un système alphabétique, d'où ils composent des mots. Et grâce à ce moyen, ils ont un grand nombre de caractères, signifiant chaque chose par un caractère. Donc on avait une langue, d'après lui, qui est biunivoque, qui n'a jamais d'ambiguïté possible. Si bien qu'un seul caractère signifie ciel, un autre terre, un autre homme, et ainsi de suite pour chaque chose. Ce commentaire sera repris par González de Mendoza et servira d'argument aux tenants du chinois langue originaire. Vous connaissez Matteo Ricci sans doute, le premier grand sinologue, et puis son compère Nicolas Thibault, qui ont écrit « Histoire de l'expédition chrétienne au royaume de Chine, 1582-1610 ». Qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils ont leur caractère hiéroglyphique de chaque mot, comme de chaque chose. Il n'y a pas moins de lettres que de mots. Le nombre de caractères est selon la multitude des choses. Il les compose néanmoins tellement qu'ils n'excèdent pas 70 à 80 000. C'est-à-dire 80 000 caractères différents pour 80 000 concepts ou objets. Ainsi, les Japonais, c'est-à-dire les Japonais, les Coréens, les Coquins chinois ou les Cochins, les Lotiens ont des livres communs en caractères chinois. Donc vous voyez, cette langue pouvait être utilisée par d'autres peuples. Ils entendent le même sens des livres, encore qu'ils n'aient connaissance d'aucune autre langue que leur langue propre. Sur ceci va naître un mythe qui dure toujours, c'est que la langue chinoise est idéographique, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec la langue parlée. Un caractère chinois renvoie à une idée. Donc il n'y a pas besoin de savoir la prononcer, il suffit de regarder le caractère chinois et on va savoir de quoi il s'agit. Et ce mythe dure encore chez nous, quoi, 5 siècles après. Quoi. Un autre, Gabriel de Mangaillance, Compagnie de Jésus, dit « La langue chinoise est une langue très parfaite. C'est une chose admirable, chaque monosyllabe est un nom, un pronom, un substantif, un adjectif, un adverbe, un participe. Ce qui veut dire, c'est qu'un même caractère peut être à la fois un nom, un verbe, un adjectif. Ce qui Quel est verbe et signifie le présent, l'impératif, le subjonctif et l'infinitif, le singulier et le pluriel avec les personnes, le présent, l'imparfait, le parfait, les aoristes et le futur. Les Chinois s'expliquent avec tant de clarté, de grâce et d'énergie qu'ils égalent en quelque façon les Grecs et les Latins. Cette langue peut expliquer tous les termes, toutes les subtilités et tous les mystères de la théologie, de la philosophie et des autres sciences. De ça naît un mythe, c'est le mythe du monosyllabisme, c'est-à-dire c'est une langue où une syllabe veut dire quelque chose. Leibniz a été très séduit par ça, il a pensé d'abord que la langue adamique était l'alphabet des pensées humaines. Et remarquant que l'écriture des Chinois ne se réfère absolument pas à la prononciation, mais à la nature des choses, il a cru à un moment que ça serait l'idéal pour créer une langue universelle. Il a oublié un peu le côté adamique, mais il a vu quelque chose de très intéressant, c'est la création d'une langue universelle qui permettrait à tous les humains de communiquer et de se comprendre sans aucune ambiguïté. De là est né le troisième mythe, c'est le mythe de l'universalisme de la langue chinoise, qui transcende les langues naturelles qui existent. Mais Leibniz, après, a changé un peu d'avis parce que des propos moins louangeurs sont arrivés. Deuxièmement, l'Europe supplante au XVIIIe siècle, la Chine. La propagation des Lumières est une des premières préoccupations du siècle. Qu'est-ce qu'avait dit en 1697 un père qui s'appelle Louis Lecomte? Il avait écrit « Ils disent beaucoup de choses en peu de mots. Leur style est serré, mystérieux, obscur et peu suivi. Cette affreuse multitude de figures, des hiéroglyphes imparfaits, qui n'ont presque aucune analogie avec ce qu'ils signifient. » Tout d'un coup, en l'espace d'une dizaine d'années, le chinois passe d'une langue très parfaite, valable absolument pour toutes les communications, quel que soit le domaine des connaissances humaines, à quelque chose qui est complètement inutile et source de confusion. Leibniz, comprenant ça, est quand même, et là j'admire l'intelligence de ce philosophe, il est fait pour le commerce des Lumières. Mais il est très clairvoyant et il écrit au père Verjus qui s'occupe d'une mission en Chine, il dit quelque chose qui vraiment est fondamental et qu'on oubliera dans les siècles suivants. J'appréhende que lorsque les Chinois auront appris, parce qu'il faut dire que les missionnaires formaient les Chinois aux mathématiques, à l'astronomie, leur communiquaient les lumières du XVIIIe siècle. Alors il dit, j'appréhende que lorsque les Chinois auront appris nos sciences, ils ne chassent un jour les Européens, de sorte qu'il me semble qu'il ne faut point perdre les occasions de se dédommager en faisant un échange de leurs connaissances avec les nôtres. Car quoique je vois la plupart de nos missionnaires assez portés à parler avec mépris des connaissances des Chinois, il est impossible que même une nue mais exacte définition de ce qui se pratique parmi eux ne nous donne des lumières très considérables. C'est pas retenu ça, hein, parce que c'est une lettre personnelle qui n'a pas été publiée, donc on a retrouvé. Par contre, les missionnaires vont continuer à décrire le chinois. Et en 1769, un peu plus de la moitié du XVIIIe siècle, le père Bourgeois écrit « Le chinois est bien difficile en un mot. Chez les chinois, le mot est substantif. » Il reprend ce qu'avait dit son prédécesseur. « L'arrangement de tous ces monosyllabes paraît n'être soumis à aucune règle grammaticale. » En sorte que pour savoir la langue, après avoir appris tous les mots, il faut apprendre chaque phrase en particulier. La moindre inversion ferait que vous ne seriez pas entendu du trois quarts du chinois. Le quatrième mythe sur la langue chinoise, c'est qu'elle est imparfaite et surtout qu'elle n'a pas de règles de grammaire ni de grammaire. Les philosophes des Lumières vont introduire dans l'encyclopédie un nouveau débat à propos du rapport de la langue avec la culture d'un peuple. Rousseau, dans l'inégalité parmi les hommes, avait écrit, en préparant une idée de la hiérarchie des langues, à l'origine, c'était des cris inarticulés, beaucoup de gestes, quelques bruits imitatifs, qui durent composer pendant longtemps la langue universelle. à quoi, joignant dans chaque contrée quelques sons articulés et conventionnels, on eut des langues particulières, mais grossières, imparfaites, et telles à peu près, qu'on en a encore dans diverses nations sauvages. Arrive le 19e siècle avec les progrès de la grammaire générale et comparée. C'est cette époque où on va faire une typologie, c'est-à-dire lire chaque langue à telle caractéristique, et ça permet de les reclasser ensemble. Donc on fait une typologie linguistique des langues qui existent. Et Schlegel, vers 1808, classe les langues flexionnelles, c'est-à-dire nos langues avec des conjugaisons et des déclinaisons, comme étant les plus évoluées. Ainsi, le sanskrit est une langue systématique et parfaite, dès sa première origine. C'est une langue d'un peuple non composé de brutes, mais d'intelligence claire. Les langues non flexionnelles, c'est-à-dire des langues agglutinantes comme le turc, ou bien comme le chinois, des langues isolantes, sont au plus bas de l'échelle. Un peu plus tard, Nicolas Marr, Jakob Levitch Marr, développe la théorie des stades. Pour lui, le chinois en est encore au premier stade, les langues sémitiques et l'indo-européen au stade le plus avancé. Alors je dois vous dire que Marr, quand on regarde dans le dictionnaire de linguistique en chinois, il est ignoré. On n'en parle pas. À la fin du 18e, les missionnaires sont expulsés de Chine. On ne va plus recevoir de là-bas d'informations intéressantes. Du coup, l'assemblée des professeurs du Collège Royal, le futur Collège de France, décide la création d'une chaire de chinois et de manchou. Les manchous à l'époque sont les maîtres de la Chine. Et il s'instaure à ce niveau-là, un débat philosophico-grammatical avec Humboldt, Wilhelm Humboldt, et puis le premier titulaire de la chaire de chinois et de manchou, qui s'appelle Jean-Abel Rémusat, Jean-Pierre Abel Rémusat. 1822-1832, il est le titulaire de la chaire. En 1836, paraît de Humboldt de la diversité dans le langage humain et son influence sur le développement spirituel du genre humain. Il va avoir, avec Abel Rémusat, une correspondance très importante, parce qu'il est très intrigué par le chinois, et Abel Rémusat a publié en 1822 la première grammaire qui fut saluée du chinois. Il y en avait d'autres, mais elle n'avait pas été saluée par toute l'Europe et aux États-Unis. Car pour la première fois, on tenait compte du génie propre de la langue chinoise. C'est le premier essai de synthèse logique et construction raisonnée de la langue chinoise. Après, il faudra attendre son disciple et son successeur à la chaire, Stanislas Julien, qui publiera en 69 une grammaire et qui reprendra tous les points que son maître lui avait enseignés. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première partie. Alors, je vais vous donner une définition de ce telle que mais courte, hein, vraiment encyclopédique de la langue chinoise. Le chinois se dit en chinois Han Yu. Yu, ça veut dire la langue, et Han, c'est une ethnie, c'est les Han. Elle est parlée dans le monde par une personne sur quatre. C'est la langue qui a le plus de locuteurs, environ 1 300 millions. Le mandarin, qui est la langue officielle, est basé sur un dialecte du Nord. C'est la langue officielle de la Chine populaire, de Taïwan, et aussi de Singapour, une des langues officielles de Singapour. Elle est par ailleurs une langue de travail à l'ONU et dans d'autres organisations internationales. On la classe dans la famille des langues sino-tibétaines, qui comprend une branche tibéto-birmane et une langue qu'on appelle aujourd'hui sinitique, dans laquelle on met tous les parlés chinois. On la considère comme étant monosyllabique, tonale. Son écriture n'est pas alphabétique et ne privilégie pas la prononciation. Elle est dite logosyllabique. Chaque caractère de cette écriture correspond à une syllabe et renvoie presque toujours à une unité signifiante, qu'on appelle en linguistique un morphème. C'est-à-dire que chaque